Deutsche Welle, Info, Matin.
Vous écoutez le programme en français de la Deutsche Welle, la radio internationale d'Allemagne. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'Info Matin. Il est 7h en temps universel. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Au micro, Fréjus Kenom et Hugo Flotatalon. Bonjour.
Bonjour Fréjus, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, l'amertume de la diaspora tchadienne aux États-Unis après que le pays a été placé sur la liste rouge de l'immigration.
C'est une information qui nous a surpris et qui nous a mis dans une situation de déception.
Plus de détails dans le courant de ce journal. Au sommaire également, la mobilisation de certains citoyens burundais. Ils pressent la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête avant le retrait du Burundi du statut de Rome dans un mois.
Une nouvelle action des victimes ivoiriennes des déchets toxiques du cargo au Probo Koala. Elle demande à la justice néerlandaise de faire payer la société affréteuse des déchets.
La page sport avec ce matin, Ali Farhat. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Hier soir en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain était tout simplement trop fort pour le Bayern Munich qui s'est incliné 3-0 au Parc des Princes, les Bavarois qui comptaient de nombreuses stars sur le banc de touche.
Merci beaucoup Ali, qu'on retrouve dans une quinzaine de minutes et ne ratez pas la rubrique du jour. L'Afrique est riche en ressources minières, mais ses habitants sont majoritairement pauvres. Mais pourquoi ? Les invités de la rédaction discutent du sujet dans une vingtaine de minutes. Oui, pour tout commencer, le bulletin d'information avec vous, Hugo Flotatalon, et on commence avec une réforme fiscale à venir aux États-Unis.
Le président Donald Trump l'a présenté mercredi. Le projet qui veut soulager les Américains était une promesse du campagne du président. Il prévoit des baisses d'impôts de 35 à 20% pour les sociétés notamment. Mais Donald Trump promet de ne pas creuser le déficit. Et si son projet est déjà très critiqué, le président croit dur comme fer à cette nouvelle réforme.
This is the right tax cut. And this is the right time.
C'est la bonne réduction d'impôts et c'est le bon moment. Les démocrates et les républicains en congrès devraient se réunir enfin pour délivrer cette victoire géante pour le peuple américain et débuter un miracle de classe moyenne. Je le répète, un miracle de classe moyenne. C'est aussi un miracle pour nos grandes compagnies, un miracle pour la classe moyenne, un miracle pour les travailleurs.
Un miracle pour la middle class, pour la working person.
Et miracle ou pas, la réforme sera en tout cas un changement important pour le pays. Les États-Unis n'ont pas fait de réforme fiscale d'ampleur depuis 1986. Le président américain qui veut également baisser l'immigration dans son pays. Il n'y aura que 45 000 places pour les réfugiés l'an prochain contre 54 000 cette année. Si les États-Unis restent le pays au monde qui accueille le plus de réfugiés, ce chiffre n'a jamais été aussi bas. L'administration Trump a aussi fixé de quelles origines seraient les réfugiés l'an prochain. Sur les 45 000 places, 19 000 seront réservées aux Africains et 17 000 aux personnes originaires du Moyen-Orient et d'Asie du Sud.
La Birmanie fait un geste dans la crise avec la minorité Rohingya.
Les observateurs de l'ONU vont enfin pouvoir se rendre dans l'état de Rakhine, invité par le gouvernement de Myanmar. Un premier pas pour trouver une issue humanitaire à la situation, réagit l'ONU. Persécuté par l'armée, notamment, quelques 480 000 musulmans ont déjà fui le Bangladesh et au Bangladesh, cela pourrait monter jusqu'à 700 000. La moitié de ces réfugiés vivent aujourd'hui sans hébergement fixe et n'ont pas accès à l'eau et à la nourriture de façon régulière. De nouvelles élections législatives prévues au Japon après la dissolution de la chambre basse du Parlement cette nuit. Une dissolution décidée par le Premier ministre de droite Shinzo Abe. Il espère que les nouvelles élections prévues le 22 octobre lui permettront de faire approuver ses orientations économiques ou encore sa fermeté à l'égard de la Corée du Nord.
La visite du ministre américain de la Défense, Jim Mattis, et du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en Afghanistan, a été perturbée par des tirs de roquettes.
Un tir de roquettes des talibans sur l'aéroport de Kaboul hier. 11 personnes ont été blessées, une autre tuée avant que les soldats américains ne répliquent. En marge de cette attaque, Jim Mattis et Jens Stoltenberg ont annoncé que les soldats de l'OTAN et des États-Unis resteraient en Afghanistan. 3 000 Américains sont attendus en renfort des 11 000 déjà sur place et les États-Unis demandent à l'OTAN de fournir plus que les 5 000 hommes aussi sur place actuellement.
Les soldats allemands, eux, quittent la Turquie.
Et après des mois de différends entre la Turquie et l'Allemagne, les membres de la Mundusphäre quittent la base d'Incirclit. Ils rejoindront la base jordanienne Al-Azraq pour continuer leur lutte, notamment aérienne, contre le groupe État islamique. La décision du Parlement allemand de faire quitter la Turquie aux soldats remonte au mois de juin, période de crise entre les deux pays. La Turquie avait alors refusé de laisser des députés allemands visiter la base de l'OTAN. Et puis la Turquie, justement, c'est là qu'est attendu le président russe Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il doit rencontrer Recep Tayyip Erdogan pour évoquer les sujets bilatéraux et régionaux. Il sera aussi question, normalement, de la guerre en Syrie. La Turquie et la Russie ont renforcé leur collaboration depuis plusieurs mois et les deux pays souhaitent la mise en place de zones dites de désescalade pour tenter de mettre fin à la guerre.
Une toux tout à fait normale, Hugo. Rien à voir avec vos nouvelles. Merci beaucoup d'avoir introduit donc ce journal. Il est 7h05 en temps universel. Il faut s'attaquer aux finances des groupes armés en Centrafrique qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles. Principale recommandation contenue dans un rapport du Centre d'analyse internationale International Crisis Group. Rapport publié ce jeudi alors que la Centrafrique est confrontée à un regain de violence depuis plusieurs mois. D'après ICG, la lutte contre les trafics les plus rémunérateurs, diamants, or, bétail, etc., doit être au cœur de la stratégie de sortie de crise.
Ne pas oublier la Centrafrique, c'est l'appel chaque fois lancé par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, qui s'est exprimé hier à la tribune du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il a admis que la situation de son pays était caractérisée par des violations massives des droits de l'homme. On écoute un extrait de ses propos.
Depuis plusieurs décennies, mon pays, la République centrafricaine, est confronté à d'énormes défis de gouvernance accentués par des crises militaro-politiques fragilisant le fonctionnement des institutions en général et de la justice en particulier. La situation du pays est caractérisée par des graves crimes, des violations massives des droits de l'homme, des violations massives de droit international humanitaire et des violations basées sur le genre qui touchent malheureusement les couches les plus vulnérables. Les femmes sont prises pour cible de guerre et sont victimes de toute forme de crimes sexuels et de violences sexistes. Les enfants soldats qui sont commis à des tâches de criminalité. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers ont été déplacées par ce conflit.
Faustin Archange Touadéra, le président de la République centrafricaine, et nous reparlerons de la RCA tout à l'heure dans la chronique À vous la parole. La situation en Centrafrique qui est suivie de près au Tchad voisin.
Et depuis quelques jours, c'est le décret migratoire américain qui préoccupe le plus les Tchadiens. Décret du président américain Donald Trump dévoilé le 24 septembre. Il interdit aux Tchadiens de séjourner aux États-Unis. Alors pour ceux qui vivent dans le pays ou y voyagent pour les affaires, cette situation remet en cause l'activité économique et bien d'autres projets. On écoute les explications de Lionel Bizzo.
La récente décision du gouvernement Trump a pris de court les Tchadiens qui vivent aux États-Unis. Najikiwo Benonjita est journaliste et il ne cache pas son incompréhension devant cette situation, alors qu'il considérait jusqu'alors que les relations étaient bonnes entre Washington et N'Djamena.
Ma réaction, c'est une réaction de surprise, d'autant que les États-Unis sont un pays ouvert et que le Tchad avec les États-Unis ont toujours eu de très bonnes relations. Ça remet en cause le statut de nombreux Tchadiens, des réfugiés et des résidents, ainsi que ceux qui veulent voyager, qui entreprennent des affaires vers le continent nord-américain et vers les États-Unis en particulier. Donc c'est une information qui nous a surpris et qui nous a mis dans une situation de déception vis-à-vis de la politique de Donald Trump.
Un point de vue que partage aussi Christian Kumtog, un activiste tchadien qui vit à New York. Celui-ci s'inquiète de la situation des compatriotes qui viennent aux États-Unis pour des raisons de santé et d'éducation.
Quand j'ai écouté la nouvelle, bon, j'étais un peu triste parce que je pensais avant toute chose à mes concitoyens, mes frères et sœurs qui ont vraiment ce besoin de quitter le Tchad et qui aimeraient sortir du Tchad et venir aux États-Unis pour des raisons de santé ou bien éducation ou bien opportunité. Cette tristesse est fondée parce que je sais bien qu'on mérite mieux que cette décision.
Pour d'autres comme Migo Tchadoubaï, la décision les a laissés dans l'incertitude.
Beaucoup de Tchadiens qui vivent aux États-Unis, c'est comme une bombe. Un, ils peuvent plus sortir librement hors des États-Unis et y rentrer normalement comme ils le faisaient, parce que la majeure partie n'ont pas encore la citoyenneté américaine. Donc, ils ne voyagent qu'avec le passeport tchadien. Les gens sont inquiets. Il y a aussi beaucoup d'étudiants tchadiens qui sont physiquement sur le sol. Ils ont peur maintenant de sortir, d'aller en vacances au Tchad avant de revenir.
Le nouveau décret entrera en vigueur le 18 octobre, mais il pourrait bien être attaqué devant les tribunaux comme les deux précédents.
En bref, et toujours dans la région de l'Afrique centrale, la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, se dit préoccupée par le contenu du rapport de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en RDC. Dans un communiqué dont notre rédaction a obtenu copie, Michaël Jean qualifie ce rapport de terrible et accablant. Elle recommande aux autorités congolaises de prendre toutes les mesures pour établir la vérité.
Vous écoutez La Deutsche Welle.
Au Burundi, cela fait plus d'un an que la société civile et l'opposition attendent l'ouverture d'une enquête par la CPI sur les crimes commis lors de la période post-électorale d'avril 2015. Le 19 juillet dernier, une dizaine d'organisations de la société civile a lancé une campagne des 100 jours pour mettre la pression sur la CPI afin d'ouvrir cette enquête avant le 27 octobre 2017.
Le 27 octobre 2017, parce que c'est la date à laquelle le Burundi devrait se retirer du statut de Rome et donc ne plus reconnaître la Cour pénale internationale. On écoute Lambert Nigarua, le président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Il est interrogé par Dario Stone Blaise.
Ça fait plus d'un an, 4 mois, et on attend toujours l'ouverture des enquêtes proprement dites. En principe, si la Cour ouvre un examen préliminaire, si réellement les crimes qui sont allégués et relève de leurs compétences. La Cour décide d'ouvrir les enquêtes proprement dites. Peu étonnant parce qu'aujourd'hui, les crimes qui se commettent sont noirs sur blanc des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Et d'ailleurs, la commission d'enquête internationale sur le Burundi vient de confirmer les allégations à travers un rapport accablant qui montre avec des témoignages à l'appui que les crimes contre l'humanité ont été commis et continuent à se commettre au Burundi. Et aujourd'hui, seule la Cour pénale internationale a la compétence de poursuivre les auteurs de ces crimes au moment où la justice burundaise est caractérisée par une inertie totale, donc n'a pas la volonté, la capacité de poursuivre ces crimes.
Vous présidez la coalition burundaise pour la CPI. Qu'est-ce que fait cette coalition exactement?
La coalition burundaise, comme les autres organisations, essaie de documenter ce qui se passe au Burundi, les violations graves, et transmettre toutes ces informations au bureau du procureur. Chaque mois, nous produisons un rapport que nous transmettons directement au bureau du procureur avec des preuves à l'appui pour faciliter la tâche à la Cour et au bureau du procureur.
Dans le même temps, le Burundi a annoncé son intention de se retirer du statut de Rome. Cela devrait entrer en vigueur normalement le 27 octobre prochain. Que se passera-t-il si jamais le Burundi se retire avant l'ouverture de l'enquête de la CPI?
La Cour gardera bien évidemment sa compétence, mais elle ne pourra pas l'exercer parce que le Burundi ne sera pas tenu de coopérer. Et sera donc tenu de collecter des informations un peu partout en dehors du Burundi parce qu'elle n'aura pas accès sur le territoire burundi. C'est ça un grand défi. Sinon, la Cour pourra poursuivre tous les crimes qui ont été commis jusqu'au 27 octobre, jour du retrait effectif du Burundi. Et c'est quand même un défi parce que les crimes continuent.
Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la CPI. En bref, en Angola, le président du principal parti d'opposition, UNITA, Isaias Samakuva, a annoncé hier à la presse qu'il quittait ses fonctions. Une décision qui fait suite à la défaite du parti lors des élections générales du 23 août dernier. Des élections qui ont redonné la majorité absolue au parti MPLA au pouvoir depuis 42 ans. Monsieur Samakuva avait prévenu qu'il abandonnerait le poste de président de l'UNITA pour servir le parti à une autre fonction.
11 ans après le déversement des déchets toxiques à Abidjan par le cargo pro Boko Hala, les victimes tentent toujours d'obtenir réparation. C'est à ce titre qu'un tribunal d'Amsterdam doit décider de la recevabilité d'une plainte prochainement présentée par plus de 100 000 victimes ivoiriennes.
Oui Hugo, mais les chances sont minces que la justice néerlandaise juge la plainte recevable. Or, à Abidjan, cette étape est déjà une satisfaction pour le président de la Fédération des associations des victimes, Denis Yao, rencontré par notre correspondant à Abidjan, Julien Adaye.
Combien de personnes sont décédées des effets néfastes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire sans être indemnisées de 2006 à ce jour? Difficile à dire. Depuis 2009, que de rebondissements dans le dossier victime contre Trafigura. Et si des choses ont traîné jusqu'à présent, cela a une explication selon Denis Yao, président de la Fédération des associations de victimes des déchets toxiques.
C'est un dossier très lourd qui concerne des dizaines de milliers de personnes. Comprenez également que nous n'avons pas été accompagnés par l'État. Et donc, il n'y avait que les victimes qui s'organisaient. Il fallait trouver les moyens Il fallait trouver les hommes, les expertises nécessaires. Tout cela a dû prendre du temps.
Un accord amiable entre l'affecteur et l'État ivoirien en 2007 arrêtait toute poursuite en contrepartie du versement d'une indemnisation globale de plus de 100 milliards de francs CFA. Mais Denis Yao, au nom des victimes, dit ne pas se reconnaître dans cet accord. C'est pour cela qu'ils fondent un grand espoir avec l'ouverture de leur dossier à Amsterdam après plusieurs années du balbutiement.
Toutes les tentatives pour faire juger le pollueur ont été un échec. Et je crois que pour une question d'éthique et de morale, il est totalement urgent qu'un juge accepte de juger Trafigura dans le fond. Aujourd'hui, nous sommes en justice avec une organisation de droit néerlandaise. Nous espérons que le juge nous donnera raison.
Pour défendre ce dossier, la structure de Denis Yao s'est attachée les services de trois avocats basés en Europe que nous avons tenté de joindre sans succès. Les honoraires de ceux-ci et autres frais liés au traitement du dossier sont gérés par une compagnie de banque assurance qui a accepté d'accompagner les victimes en soutien à Denis Yao avant de conclure.
Il y a eu beaucoup de victimes décédés de cette catastrophe, mais nous espérons obtenir satisfaction, justice, rien que pour leur mémoire.
Rappelons enfin qu'en 2009, 33 millions d'euros avaient été versés à environ 30 000 victimes dans le cadre d'un autre jugement qui a eu lieu en Angleterre. Combien de temps reste-t-il encore pour fermer complètement le dossier de déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Difficile à répondre si ces victimes doivent continuer à se battre toutes seules pour leur indemnisation. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et la Côte d'Ivoire qui va recevoir de l'argent frais de la part du Millennium Challenge Corporation, l'agence américaine d'aide au développement, a annoncé hier l'octroi d'une aide de 524 millions de dollars. Ça fait 444 millions d'euros de l'argent versé à la Côte d'Ivoire pour stimuler sa croissance économique et réduire la pauvreté.
La Côte d'Ivoire, toujours où l'armée ivoirienne affirme avoir découvert une importante cache d'armes et des matériels de communication à Abidjan, des fausses plaques d'immatriculation de véhicules administratifs et militaires, et au moins 300 treillis auraient également été découverts, ainsi que des badges portant la mention « Mouvement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire », un groupe jusqu'ici inconnu, et des bruits de bottes à la frontière entre la RDC et le Burundi, des tirs à l'arme lourde auraient été entendus hier provenant de combats entre l'armée et des milices dans une ville de l'est de la RDC, près donc de la frontière avec le Burundi.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Le programme a été bien orchestré trois jours après les élections allemandes et au lendemain du discours du président français sur l'avenir de l'Europe. La Commission européenne a présenté un plan pour accueillir 50 000 réfugiés qui seront réinstallés directement depuis les pays africains. Une voie légale donc pour rejoindre l'Europe, ouverte uniquement aux demandeurs d'asile. On écoute le commissaire chargé de la migration, Dimitris Avramopoulos.
L'Europe doit montrer that it is ready to share responsibility with third countries.
L'Europe doit montrer qu'elle est prête à partager ses responsabilités avec les pays tiers, notamment en Afrique. On ne peut pas stopper d'être solidaire avec les gens. C'est pour cela que nous proposons d'accueillir 50 000 personnes et de bloquer 500 millions d'euros pour cela. Je compte sur les États membres pour avoir de l'ambition.
Et cette annonce de Dimitris Avramopoulos intervient alors que prend fin un plan de relocalisation qui a totalement échoué. Seulement 29 000 réfugiés arrivés en Italie et en Grèce sur un total prévu de 160 000 avaient pu être redéployés depuis 2015 dans toute l'Europe.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Ali a reconnu que c'était son tour maintenant. Il a mis son casque. Rebonjour Ali Farhat.
Rebonjour à toutes et à tous.
Hier soir, on jouait la suite et la fin de la deuxième journée de Ligue des Champions et l'affiche de la soirée a tourné à l'avantage du Paris Saint-Germain qui a réussi à se défaire du Bayern Munich.
Et oui, il ne fallait pas arriver en retard hier au Parc des Princes puisque dès la deuxième minute, Neymar s'est emparé du ballon, a emmené plusieurs Bavarois dans son sillage avant de délivrer un ballon parfait pour Dani Alves qui n'avait plus qu'à tromper Sven Ulreich. Le remplaçant de Manuel Neuer qui a dû s'incliner une deuxième fois à la demi-heure de jeu suite à une reprise d'Edinson Cavani, bien servi par Kylian Mbappé.
Et le Bayern de Munich a eu des opportunités pour revenir dans le match pourtant. Hein.
Oui, seulement les Parisiens étaient mieux organisés. Sur une splendide volée de Javi Martinez par exemple, Alphonse Areola a sorti une superbe claquette pour sauver les siens, tandis que Thiago Silva a lui aussi empêché le Bayern Munich de marquer en dégageant le ballon de la tête sur la ligne. Le PSG qui finira par montrer sa supériorité dans dans cette rencontre avec un dernier but signé Neymar, là aussi parfaitement servi par Kylian Mbappé. Victoire 3-0 du PSG donc face à une équipe du Bayern Munich qui comptait de nombreuses stars sur le banc des remplaçants. Une tactique que l'entraîneur Carlo Ancelotti assume complètement.
I thought that we could win.
Je pensais qu'on pouvait gagner cette rencontre. Il est vrai que Robben, Ribéry, Hummels et d'autres grands joueurs étaient sur le banc. Mais c'est comme ça à chaque rencontre. C'est ça la vie dans un grand club. Tu dois malheureusement laisser un grand joueur sur le banc. C'est ça mon travail.
This is my job.
Alors grâce à cette victoire, le PSG prend le contrôle du groupe B avec un peu d'avance sur ses poursuivants.
En effet, le Paris Saint-Germain compte 6 points, soit 3 de plus que le Bayern, ainsi que sur le Celtic Glasgow qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Anderlecht. Dans les autres rencontres, grosse surprise en Suisse avec la victoire 5-0 du FC Bâle sur le Benfica Lisbonne. Bâle qui reste néanmoins derrière Manchester United qui est allé gagner 4-1 à Moscou face au CSKA. Grâce à un but de Michy Batshuayi dans les arrêts de jeu, Chelsea arrache une victoire 2-1 sur le terrain de l'Atlético Madrid. Les Blues comptent 6 points, soit 2 longueurs d'avance sur l'AS Rome qui est allé gagner 2-1 en Azerbaïdjan face au FK Karabagh. Enfin, dans le groupe D, service minimum pour le FC Barcelone face au Sporting, victoire 1-0, tandis que la Juventus a battu l'Olympiakos 2-0.
Ali Farhat, merci beaucoup. Votre chronique pourra être retrouvée sur le site internet dw.com/lesport.
Invité de la rédaction.
Il est 7h21 tout pile en temps universel. Nous sommes le 28 septembre 2017 et c'est l'heure de la rubrique Les invités de la rédaction, Fréjus.
Oui, et depuis plusieurs semaines en Guinée, les populations de Boké sont révoltées. Elles disent ne pas comprendre que leur région possède une des plus grosses mines de bauxite au monde alors qu'il leur manque l'électricité et l'eau. Cela relance la question de la répartition des bénéfices issus de l'exploitation minière en Afrique. Et voilà, c'est un sujet dont parlent cette semaine les invités du débat Arbre à Palabre, dont cette rubrique est un extrait. Et vous pouvez nous dire qui sont les invités, Hugo ?
Oui, il y a Al-Mustapha Alassane, le président de l'ONG Aguirin Man, basé à Arlit, au Niger, ancien collaborateur de la multinationale française Areva. Kofi Kwaku, politologue, maître de conférence à l'université Wilmacher-Strand de Johannesburg et spécialiste des questions minières. Et puis Fatou Baldé Yazane, directrice exécutive de la Coalition des femmes leaders de Guinée.
Nous avons prévenu il y a très longtemps que les zones minières vont constituer à un moment donné une menace réelle pour la paix.
Parce que vous constatez que ces zones ne sont pas développées, c'est ça ?
D'abord, les zones ne sont pas développées. Mais encore plus grave, lorsque vous prenez le cas de Boké, c'est tous les jours on creuse la terre rouge qu'on transporte par camion, ce qui fait qu'il est aujourd'hui impossible de respirer correctement à Boké. Alors c'est une dégradation accrue de la qualité de vie à Boké. Plus les compagnies minières s'installent, plus Boké et ses environs s'enfoncent dans la pauvreté.
Réaction de M. Al-Mustapha Alassane, des manifestations semblables à celles de Boké ont sans doute aussi eu lieu à Arlit, au Niger ?
Oui, il y a eu des manifestations, c'est vrai, mais en fait, ces problèmes, en réalité, on a tendance toujours à l'attribuer aux autorités africaines. Les gouvernements africains, ils sont victimes comme leur population.
Ah bon, c'est une version qu'on n'entend pas souvent, en effet.
Oui, ils sont victimes comme nous. Et les problèmes, on les connaît, mais on l'esquive en accusant, si vous voulez, les autorités dont nous sommes tous conscients de la limite de leurs actions sur le plan mondial.
J'aimerais bien connaître la réaction de Mme Baldé Nyansané lorsque M. Al-Mustapha dit que les autorités sont autant que les populations victimes.
Peut-être que c'est le cas au niveau du Niger, mais pour le cas de la Guinée, moi je peux vous certifier que c'est avec la bénédiction des autorités que les populations autochtones se retrouvent dans cette situation. En tout cas pour le cas guinéen, c'est avec la bénédiction du gouvernement.
Madame Nyansané, une seconde, on va donner la parole à Kofi Kwaku rapidement. Monsieur Kwaku, je rappelle que vous êtes politologue et vous vous intéressez aux questions d'exploitation minière en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez-vous la pauvreté dans laquelle les populations vivent malgré la richesse du sous-sol?
Il y a peut-être quelques très rares cas en Afrique. Il y a des pays qui réussissent à avoir des leaders qui peuvent discuter avec les compagnies minières. Par exemple, en ce moment, en Tanzanie, vous avez le président John Magufuli qui est en train de mettre sur place un système légal avec des lois qui permettent aux compagnies de vraiment exploiter les mines avec la possibilité que les Tanzaniens puissent bénéficier de cette exploitation. La même chose se passe aussi avec le président Kama au Botswana sur les diamants. La même chose commence aussi à se présenter en Namibie. Donc il y a une nouvelle tendance qui commence à grimper. Mais la tendance n'est pas vraiment forte. Et on voit, par exemple, que dans la plupart des pays africains, et où je suis d'accord avec Mme Sané, c'est que les leaders africains, les responsables africains de gouvernement, ils sont complètement soit bouleversés par les stratégies des compagnies minières ou ils font partie directement de cette que moi j'appelle une fraude, en fait, une exploitation vraiment très profonde, pas seulement des mines, mais des êtres humains. Et il faut changer la mentalité de nos responsables africains pour se rendre compte qu'ils peuvent agir, ils peuvent faire quelque chose pour changer les situations.
Madame Baldé-Niansané, on voit aussi que ces entreprises construisent en échange des contrats, des infrastructures. Il y a des écoles qui sont construites, il y a parfois des centres de santé, mais aussi des infrastructures routières. Ce n'est pas satisfaisant ?
Pour le cas de la Guinée, il n'y a aucune infrastructure routière construite sur la base des mines. Toutes les grosses infrastructures que nous possédons ici sont financées par l'Union européenne, l'AFD, l'Agence française de développement, la BADEA, la BAD. Les Chinois, en Guinée, il n'y a pas une seule route ici qui est faite par les Chinois. Qu'est-ce qu'ils font ? Actuellement, vous avez peut-être entendu parler que notre pays a fait un accord, un cadre de prêt de 20 milliards de dollars. Mais les 20 milliards de dollars, quand vous décryptez, c'est du troc.
Mais le pouvoir guinéen dit que c'est un bon contrat, Madame Niansané.
Bon, ils diront que c'est un bon contrat. Comment vous pouvez hypothéquer 20 ans de toute une nation avec un seul pays qui va monopoliser toutes les mines de Guinée ? Pourquoi ?
Monsieur Kouakou a pris tout à l'heure quelques exemples des histoires de succès, comme par exemple en Tanzanie avec le président John Magufuli ou certains pays anglophones en Afrique australe qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Mais monsieur Alassane, on a vu que le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a tenté de faire un peu la même chose avec Arriva, mais ça n'a pas bien marché. Alors, où est-ce que le problème se pose selon vous ?
Tout à l'heure, ces gens-là, en fait, mes collègues ont parlé de l'indépendance. Moi, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi ce mot indépendance.
Monsieur Alassane, qu'est-ce que le président du Niger craint en demandant à Arriva de plier bagage si la multinationale n'accepte pas les conditions du Niger ?
Je l'ai expliqué. D'abord, s'il demande de plier, il aura tous ses travailleurs et la population de 200 000 arbitres sur les dos. Cette population qui cherche le travail, etc., etc.
Voilà, 7h27 minutes en temps universel. Mireille Drone nous présente un peu maintenant vos opinions sur la crise en Centrafrique.
Le président a reconduit des personnalités proches de l'ancien président Bozizé qui sont recherchées par la justice et occupent des postes bénéficiant d'une immunité. Proteste sous les mains de Bangui en Centrafrique. Selon lui, tant que ces pratiques ne sont pas exclues, le pays ne s'en sortira pas. Selon l'archiduc de N'Djamena, il faut partager le pouvoir par une formation mixte au gouvernement, multiplier la sécurité en étant sincère et punir les auteurs de crimes. Mais Mamadou d'Abidjan pense que tant que certains manipulateurs continueront à faire croire que les ex-Séléka musulmans sont les seuls responsables de la situation et que eux seuls doivent être désarmés, il sera difficile de parvenir à une vraie paix. Et puis, la décision de Donald Trump d'inscrire le Tchad sur sa liste noire a aussi suscité vos réactions. Issa, étudiant tchadien en Russie, pense que l'interdiction aux Tchadiens d'entrer aux États-Unis est une décision politique sans fondement. Selon lui, Trump a des intentions cachées. Il s'agit probablement d'une décision liée à la situation en Libye. Ali de Bamako nous a laissé, lui, un message sur WhatsApp.
Soi-disant qu'il souhaiterait protéger les États-Unis. Cela montre juste sa façon de voir la géopolitique internationale. Et je suis sûr, c'est politique. Sinon, nous voudrons savoir les raisons pour lesquelles le Tchad fait partie de cette liste.
Marcelin de N'Djamena trouve ces décisions d'autant plus étonnantes que le Tchad a consenti d'énormes efforts pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Voué aux gémonies de tout un peuple après de durs sacrifices me paraît très ingrat de la part de Donald Trump, écrit-il. Si des informations ont été cachées aux Américains par le Tchad, ceux-ci devraient à la rigueur prendre des sanctions ciblées contre des personnes précises. Et Marcelin suggère aux autorités tchadiennes de faire le nécessaire pour réinstaurer la confiance entre le Tchad et les États-Unis.
C'est la fin de ce programme. Que nous réserve cette journée, Hugo?
Et on va retenir aujourd'hui le geste de la Birmanie dans la crise des réfugiés. Des observateurs de l'ONU vont pouvoir se rendre dans l'état de Rakhine. Et puis à retenir aussi la fin des arrêts des vols internationaux à partir de ce soir en direction et vers le Kurdistan irakien. La communauté internationale n'accepte pas le référendum d'indépendance qui s'est déroulé lundi au Kurdistan.
Merci à tous d'avoir suivi Info Matin. Bonne journée et rendez-vous 17h temps universel avec le programme francophone de la Deutsche Welle.